Europe 1.
Votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Avec les grandes voix qui sont avec moi dans ce studio d'Europe 1, jusqu'à 19h, comme chaque soir, c'est votre rendez-vous pour regarder l'actualité immédiate, politique bien sûr, mais au sens le plus large, également avec leur point de vue. Michel Cotta, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Gérard Carrérou.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Michaël Darmon, éditorialiste d'Europe 1, bonsoir à vous, bonsoir à tous les trois. Et vous, chers auditeurs, vous êtes évidemment nombreux à nous contacter chaque soir au 39-21. Continuez, on prend vos questions évidemment au fur et à mesure et vos interventions. Alors ça y est, Cédric Villani, il a coupé le cordon, si j'ose dire, Michaël Darmon, je me tourne vers vous parce que ça se passe là quasiment à l'heure où nous nous parlons, dans le 14e arrondissement de Paris, dans un café. Le cordon est coupé.
Oui, au Café de la Gaîté, qui est un café symbolique pour lui, parce que c'était son café d'arrivée depuis Toulon, et c'est à partir de là qu'il a à chaque fois mis en place ses opérations importantes. Oui, alors on va voir effectivement comment il va se déclarer, qu'est-ce qu'il va dire, sur quel positionnement, vraisemblablement celui d'une candidature libre par rapport à la candidature de l'appareil, celle qui est représentée selon lui par Benjamin Griveaux. Mais au-delà de cela, c'est... la première fracture importante dans la majorité pour un scrutin crucial et un lieu symbolique. Et Villani, il vient en fait rappeler un peu l'origine du projet de Macron. Il est lui-même issu de cette société civile qui n'avait aucun lien avec la politique et qui est venu à la politique sur le projet Macron. Et quelque part, il met en lumière, 2 ans après, l'évolution vers le réalisme de La République En Marche, incarné pour lui, selon lui, par la candidature de Benjamin Griveaux.
Est-ce que Michel Cotta, Gérard Carrérou, si je dis qu'il fait du Macron sans Macron, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer Cédric Villani, cette candidature, cette distance, oui. Ce côté disruptif aussi.
Enfin, voilà, c'est ça. Et puis il vient de la société civile, il n'a jamais été... il a été élu, mais il vient du Parti Socialiste, ce qui peut être pas mauvais peut-être au moment où... on pourrait ouvrir vers la gauche. Et il a une personnalité qui existe. Moi, j'étais fascinée, pardon, mais c'est peut-être un réflexe de femme, mais j'étais fascinée par la façon dont il a changé son apparence physique.
Incroyable.
C'est-à-dire ses cheveux longs, les crasseux, là, il a les cheveux carrés. Enfin, on a l'impression que c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui a
étudié. Oui, il a travaillé sa communication,
puis,
il a travaillé
pour
son
image. Pour les intellectuels, on voit, c'est sa force, mais c'est peut-être sa faiblesse. Mais on voit bien que derrière lui, il a une machine des intellectuels, dont plusieurs viennent de la gauche, et qui sont à fond derrière lui.
Exactement. Tout est mis en place, Gérard Carrérou, et ce qu'on se dit là, c'est quand on voit Cédric Villani, on se dit attention, ça va peut-être faire des émules chez les marcheurs qui n'ont pas ou n'auront pas obtenu l'investiture de leur commune. Là, alors, peut-être que la machine est lancée.
Il est tout à fait possible que de la même manière que Villani imite son maître, en l'occurrence, c'est le disciple qui veut faire la même chose que le maître avait fait lors de la présidentielle, il est tout à fait possible que ça donne des idées à un certain nombre de candidats non élus, enfin non investis par leur parti, de faire la même chose. Il y a déjà dans 2-3 villes des candidats qui se...
On voit
qui
que sont ça tangue à Marseille,
bon,
à Lyon...
Qui sont en train de se préparer. Bon. Mais déjà, avant même de voir si ça peut s'étendre en province, c'est quand même pour Paris. Moi, si ce soir, j'imagine, si on avait une caméra dans le bureau d'Anne Hidalgo, je pense qu'on doit être en train de sabler le champagne.
Oui, les micros, on entendrait le champagne, le bouchon de champagne.
Elle a le bras sur la portière, sur la fenêtre, elle roule
sauter
les bouchons, le périph' là.
Oui, parce que c'est quand même, qu'on le veuille ou non, c'est pour elle, c'est quelque chose de très positif.
Bien sûr.
Et pour le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement et la Macronie dans son ensemble, c'est quelque chose de négatif. Alors, en plus... cet homme est intéressant, ce rebelle, si vous voulez. Ce rebelle est un homme intéressant, Michel a commencé à l'expliquer. Et du coup, il va intéresser les médias, ça c'est sûr, et il va probablement intéresser les sondages. Du coup, je ne serais pas surpris que, dès les premiers sondages, il puisse, après tout, faire la percée.
Ah oui,
et qu'est-ce
ça.
Qui va se passer s'il arrive devant Griveaux?
Et c'est ça, ce duel fratricide auquel il va falloir se préparer.
On n'est pas sorti de l'auberge,
tous les duels fratricides en politique ont toujours été catastrophiques.
C'est ça, ça fait des dégâts. Et ça peut faire des dégâts incommensurables. Exactement. On s'en parle dans un petit instant. On va faire aussi un tour de France parce qu'on va regarder dans ces autres villes où ça coince. Et puis on va voir aussi ce qu'à Bordeaux, ils doivent se dire, LREM, ce week-end. Il va falloir rappeler des règles du jeu, la volonté d'unité. Vous nous direz le message, il faut qu'il soit martelé. C'est dans un tout petit instant. Jean-Michel, vous êtes notre auditeur au 39-21. On vous répond dans une seconde et on vous écoute aussi.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. 18h40 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy, autour de vous, les grandes voix, Michel Cotta, Gérard Carrérou et Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1. Grandes voix que vous pouvez interpeller au 39-21 en direct, 50 centimes la minute.
Doit-on se préparer à un duel fratricide entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani, la formation d'Emmanuel Macron qui pourrait bien y laisser des plumes? On va regarder cela de près avec vous trois dans un petit instant. Jean-Michel nous appelle depuis les Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous. Bienvenue sur Europe 1.
Comment vous merci beaucoup et merci de me prendre l'antenne. Bah, alors écoutez, moi franchement, je trouve ça assez lamentable. Quoi qu'on en pense, le parti, enfin tout du moins le mouvement politique qui a fondé M. Macron, en prenant un petit peu des sensibilités de différents milieux politiques, tout ça, bon, c'est ce que c'est, on en pense ce qu'on voudra, machin, mais ça est. Alors moi je pense qu'à un moment donné, en France, on a beau vouloir ce qu'on veut, il faut quand même une stabilité politique et tout ça. Bah, ce monsieur, écoutez, franchement, il essaye de recréer je ne sais pas quoi en allant chercher, en faisant le grand écart un peu partout. Écoutez, je pense que Paris a besoin d'autre chose. Moi, j'habite en proche banlieue. Mmh. Je suis à Paris, bien sûr, tous les jours et tout ça. Je pense que le désastre, moi, je dirais le désastre de la gestion Hidalgo, parce qu'il faut voir Paris quand même. Je ne parle pas d'état
des travaux, par exemple, Paris comme un gruyère, ou
travaux,
entre autres.
Attendez, regardez la rive droite, une partie des arrondissements, dans quel état, je dirais, de malpropreté ça se trouve. Il y a franchement l'hystérie anti-voiture. Bon, ça suffit un petit peu. Je pense qu'il y a un problème de fond à voir. Là, on est en train de tirer le tapis pour cette dame si elle se représente. Bon, écoutez, franchement, moi, ce monsieur Villani, j'avoue non, il est en train de transformer l'élection.
Pas, hein. Vous êtes très...
C'est vraiment le village gaulois, excusez-moi, mais bon,
carrément.
Il n'y a pas besoin de ça. Bon, le parti, il est ce qu'il est, le mouvement de Macron, il a désigné un candidat. Bon, qu'on arrête un petit peu tout ça. Bon, c'est un peu facile, hein, son truc. Si vous voulez, franchement, je trouve qu'il y a autre chose
Macron.
À faire.
Et... Alors attendez, vous permettez intervenir avec Michel Cotta, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, comme ça vous allez interagir, Michel.
Moi, je suis assez d'accord avec ce que dit notre interlocuteur. C'est vrai que si on veut donner un coup de main à Anne Hidalgo, il n'y avait que ça à faire.
C'est la meilleure stratégie.
On peut dire, chacun peut avoir sa stratégie, etc. Mais si chacun tire dans tous les coins, on finit par se tirer des balles dans le pied, même ailleurs.
Oui, mais alors dans ce cas-là, qui peut intervenir? Moi, je veux bien accepter cette idée qu'après tout, il y avait un candidat désigné et que la discipline...
Donc Macron doit taper du poing sur la table.
Alors, il y a deux personnes qui pouvait intervenir, le Premier ministre et bien sûr le Président de la République. Le Premier ministre, il est déjà intervenu cet après-midi. Il a dit, lui, moi je ne suis pas... En fait, ce qu'on a tous compris, c'est qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait de sanctions. Ça. Parce qu'il aurait pu
pas
dire, oui, dans ces cas-là, on va exclure, etc.
C'est jamais
chef,
bon d'exclure.
Le chef du, oui, mais
c'est
le chef
jamais
du
bon
parti, le chef du parti macroniste l'avait un peu laissé entendre. Du coup, c'est fini, on n'aura pas d'exclusion. Donc, il n'y a que maintenant que l'arbitrage du Président de la République. Que peut-il faire? Est-ce qu'il va attendre? S'il attend, ça va être la bagarre, ça va être les sondages les uns les autres, etc. Ou alors il intervient. Mais qu'est-ce qu'il peut faire?
Parce que
j'ai vu qu'un sondage donnait l'avantage.
Alors, de toute façon, c'est le président qui a perdu. Alors,
merci beaucoup Jean-Michel. Mais attendez, alors, si on reprend un petit peu les choses en arrière, Mickaël Darmon... il a donné un blanc-seing au départ. Son candidat, c'est Benjamin Griveaux. Et puis, il a vu monter comme ça Cédric Villani, un peu à côté, un peu différent, un peu insolite dans son... Non ?
Alors, plus, oui.
Et ça l'a troublé. Ça l'a troublé ou pas ?
Plus exactement, le Benjamin Griveaux est le candidat des macronistes du premier cercle. Il y a quand même beaucoup de confidences qui nous sont revenues et de sources très fiables qui laissent comprendre et entendre que depuis longtemps... Et encore plus à partir du moment de l'investiture, le président de la République regarde la candidature de Benjamin Griveaux avec aussi un peu d'inquiétude, en disant il ne rassemble pas. Il s'y prépare depuis 2 ans et il n'a pas fait des retours de lui. Que se passe-t-il? Mais en l'occurrence,
Villani aussi,
Benjamin Griveaux, lui, s'est préparé beaucoup plus longtemps que Villani.
Mais chez les marcheurs, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron.
A voulu quitter le gouvernement.
Mickaël Darmon, il n'y a pas qu'Emmanuel Macron qui est dubitatif, voire inquiet. C'est toute la Macronie.
La personnalité de Macron n'est pas anodine dans le dispositif. Donc, de ce point de vue-là, il est un peu dubitatif. Mais il lui dit, OK, confiance, tu y vas. Là, maintenant, Villani se déclare. Bien évidemment, il va attendre de voir ce qui va se passer. Il va voir si jamais il y a effectivement une dynamique qui prend autour de Mélanie ou pas, d'ailleurs. Mmh. Et à ce moment-là, il interviendra de certaine manière.
Pardon, oui, Michel Jean, c'est dangereux pour lui. Qu'on le veuille ou non. De toute façon, quoi qu'il se passe, c'est dangereux. Oui. Si il intervient, après tout, Villani peut toujours dire « je suis un être libre ». Non. Le président a perdu. Et si les deux se présentent, alors
le président aura mieux trop tard. À mon avis, il est déjà trop tard.
Pourquoi il est trop tard, Gérard?
Il est trop tard parce que Villani part. Enfin, il est en train de partir au moment où on part.
Il se lance là, ce soir.
Il se lance et on en a parlé partout, dans tous les médias depuis 3 jours, 4 jours. Déjà, Darmon en avait parlé.
On avait parlé la semaine dernière, on en a parlé.
On le sait. À partir de là, le Premier ministre disant aujourd'hui « Non, on ne fera rien pour l'empêcher », quelque part, c'est un blanc-seing pour continuer. Je ne vois pas le président. Et ce n'est pas dans le style de Macron d'aujourd'hui.
Non, mais je ne le vois pas prisonnier de sa méthode.
Je le désavoue.
Quel était le ministre qui disait « On va dans le mur en klaxonnant ».
En klaxonnant, oui,
c'est un
peut-être.
Un peu ça.
Non, il y avait plusieurs l'avaient dit de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'il est aussi, quelque part, prisonnier de sa méthode. Il est un peu darwinien,
c'est ce que je dis,
Macron. Il a l'habitude de dire
que les choses se fassent.
Que le meilleur gagne.
En politique aussi, il n'y a pas que le meilleur gagne. Il y a aussi des contre-réactions, des écosystèmes et des contre-réactions.
Et le problème, c'est que ça peut faire des émules. On s'en parlait juste avant la pause. Regardons brièvement. Non mais si, quand même, il y a deux villes. Il y a Marseille, il y a Lyon. Il se passe des choses, ça cristallise.
Ça, au fond, c'est classique. Il y a toujours, dans une grande élection d'une grande ville, il y a toujours des gens qui pointent le nez. Tandis que là, c'est chose faite. Hein, je veux dire, on peut toujours avoir le bénéfice du doute et qu'il y ait plusieurs candidats. Mais il n'y a plus, à 7h du soir, il n'y aura, je crois,
plus de
doute.
Il n'y a plus de mystère.
Oui, mais il y a quand même, à Lille, par exemple, la candidate qui n'a pas été investie, son nom m'échappe à la seconde, mais elle a dit qu'elle ne soutiendrait pas celle qui a été investie. Et ça veut dire que peut-être elle va se présenter. Ouais. Et puis à Marseille, ça risque d'être pareil.
C'est-à-dire que Montpellier, ça risque d'être pareil. Ça se passe dans toutes les élections.
La République en marche, bienvenue en politique.
Exactement. Voilà. Premier test véritable pour eux.
Première conclusion.
On se retrouve dans un petit instant. On va traverser la Manche, si vous le voulez bien, parce que autour de Boris Johnson, à la nage, oui, je crois qu'ils n'en sont pas loin. Vous avez raison, Michel Cotta, du côté, évidemment, de Boris Johnson, tout de suite.
Votre grand journal du soir, jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy. Votre grand journal du soir sur Europe avec jusqu'à 19h, le débat des grandes voix, la suite avec Nathalie Lévy autour de vous, Michel Cotta aujourd'hui, Gérard Carrérou, Mickaël Darmon, éditorialiste Europe 1, et toutes vos réactions en direct au 39-21, 50 centimes la minute. On traverse la Manche à la nage, c'est ce que vous disiez, Michel Cotta. On n'est pas loin de ça, hein, tant la situation est complexe outre-Manche et tant Boris Johnson enchaîne, j'allais dire, les coups de menton. On a Migueline en direct avec nous depuis le Vaucluse. Gérard Carrérou est très chaud sur ce dossier. Donc Gérard, vous allez nous livrer évidemment votre regard sur cette situation dans un instant. Mais Migueline, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la fois des attentes du peuple britannique et à la fois de ce Boris Johnson qui enchaîne finalement les croche-pieds, les coups d'éclat.
Écoutez, d'abord, je suis très triste pour les Anglais, parce que je pense qu'ils vivent une situation très difficile depuis 3 ans. C'est ce que me disait une de mes amies, qui a un pied en Angleterre et un pied en France. Et elle dit que pour eux, c'est très, très difficile et compliqué à vivre. Elle a une retraite qu'elle touche en livres et elle vit en partie en France. Donc pour elle, ça commence à devenir très, très compliqué. D'autre part, elle pense, et elle m'a dit qu'on avait menti aux Anglais, on leur a dit, vous comprenez, l'argent que vous ne donnerez plus à l'Europe, on va vous le donner et ça va servir à renflouer nos caisses. Donc voilà. Et puis en ce qui concerne Boris Johnson, bien, moi, il ne m'est pas très sympathique, vous le dites. Et puis elle m'a dit, le problème, c'est même s'il y a des élections anticipées, le problème, c'est que c'est quand même un monsieur qui plaît à beaucoup de monde. Elle pense qu'ils sont dans une impasse.
Et pour compléter votre propos, Migueline, ce soir, merci à vous d'avoir réagi sur Europe 1. C'est Donald Trump qui ne se montre pas du tout inquiet pour Boris Johnson. Il faut dire qu'il parle peut-être le même langage, ces deux-là. Il sait comment gagner, dit le président américain à l'adresse de son homologue britannique, du Premier ministre britannique, Gérard Carrérou.
En attendant, c'est plutôt mal parti. Pour,
c'est moins qu'on puisse dire, là.
Parce que, en fait, c'est un drame shakespearien qui se déroule aujourd'hui. C'est la vengeance de quelque chose de sacré en Grande-Bretagne qui est le Parlement britannique. L'erreur fatale de BJ, là, de Boris Johnson, c'est d'avoir voulu mettre le Parlement en vacances pendant 5 semaines. Et là, il s'est planté. Il a essuyé un vote hier soir où il s'est planté. Il a été obligé d'exclure, à la suite de ce vote, 21 députés du Parti conservateur, son parti, qui avait fait défaut. Aujourd'hui, il a tenté, il y a eu un deuxième vote. Le deuxième vote a été défavorable.
Exactement.
Puisque le deuxième vote l'oblige maintenant à aller essayer de renégocier, ce qu'il ne voulait absolument pas faire, essayer de renégocier éventuellement un deal, un accord avec l'Europe. Et troisièmement, il va peut-être tenter tout à l'heure, dans la soirée, un troisième vote qui lui sera, je pense, aussi défavorable que les deux premiers. Il va vouloir essayer d'obtenir des élections anticipées.
C'est ça.
Il faudrait pour ça qu'il ait les travaillistes votant avec les conservateurs pour faire 2/3. Mmh. Il ne les aura pas et donc il va se retrouver demain matin, si j'ose dire, mal habillé.
Le réveil risque d'être très difficile. C'est camouflé sur camouflé.
Il y a un grand perdant, d'accord, mais il y a aussi un grand perdant, c'est le Parlement. Parce qu'on comprend le Parlement anglais. D'accord, il était en vacances, c'était une erreur. Mais franchement, il fiche en l'air Theresa May, parce qu'elle est contre son accord. Elle a un accord, ils sont contre, ils fichent en l'air Theresa May. Donc, quelque part, ils mettent Boris Johnson pour qu'il arrive le plus rapidement à la sortie. Et là, on ne sait plus ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la peine de faire partir. Mais si vraiment, maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent?
C'est le régime parlementaire
Michael, c'est aussi un personnage adepte du coup de menton, de la tension maximale. C'est aussi de la trempe d'un Trump, d'un Salvini. C'est un populiste.
Là, ils partagent les méthodes, les coups d'éclat, la tignasse blonde. Ils ont une forme de similitude, je dirais, dans leur hémorphologie et démarche politique.
Incapable de faire des compromis, cela.
Bien sûr, mais n'oublions pas, pour rebondir sur ce que disait à l'instant Gérard, ce que disait également Michel. Certes, c'est effectivement vengeance du Parlement. Certes, le Parlement s'est lui-même mis dans un problème. Mais il ne faut pas oublier que cette mécanique qui permet de suspendre le Parlement est légale.
Oui,
ça a été validé par la reine.
Donc,
il a bien fallu aussi que tout ça s'inscrit dans une légalité. Donc, il joue avec effectivement les points de fusion possibles de la démocratie parlementaire, mais il n'en est pas sorti en réalité.
Exactement. Donc, mais c'est incroyable.
Il est plus politique parce que c'est vrai, un populiste. On vit un événement populiste.
Exactement. Plus de 3 ans après le référendum, 52% des Britanniques se prononçaient alors en faveur d'un divorce avec l'Union européenne. On est toujours aussi divisés.
Oui, mais beaucoup,
on est toujours.
De plus en plus divisés,
exactement,
les Anglais. Et la violence augmente, forcément, quand on est sur des positions préparées à l'avance, chacun de son côté. Et on arrive forcément au conflit. Alors que c'est vrai qu'un accord. Moi, je ne vois pas comment Boris Johnson pourrait obtenir, à la demande du Parlement, un accord, alors que l'Europe a déjà refusé. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir que May n'a pas eu?
Mais alors, c'est quand même intéressant de voir. C'est la deuxième défaite des populistes. Enfin, d'une certaine manière, sa défaite de ce soir est une deuxième défaite après celle de Salvini en Italie. Ouais. On a eu deux hommes là qui, en Europe, étaient des populistes et qui se sont quelque part.
Je pense qu'on ne peut pas les comparer quand même.
Sur certains aspects. En tout cas,
c'est quand même. Tant des coups et il y a maintenant des réactions. C'est une deuxième phase.
Alors peut-être, en tout cas, doit-on se préparer à des élections législatives le 14 octobre? On verra. Tout reste ouvert aujourd'hui, c'est ça. Merci à tous les trois. Michael Darmon, dimanche, 10h. À 11h, c'est vous qui êtes au micro, le grand rendez-vous sur Europe 1. Votre invité, ce sera
Jean-Yves Le Drian, le patron de la diplomatie française, avec CNews et Les Échos.
Merci beaucoup Michel Cotta, Gérard Carrérou, Michael Darmon, merci. Europe 1.